J'ai décidé de ne pas lire mon texte, donc je vais forcément me gourer. J'ai un accent luxembourgeois, si vous ne me comprenez pas, il faut me le dire. C'est ça la bonne distance, donc j'espère bien. Donc, je prends quand même mes feuilles, comme ça, je garde un certain ordre. Du moins, je l'espère. Bon, d'abord, je remercie Annie Agopian pour son accueil hospitalisé dans la maison populaire de Montreuil, qui est unique, que je connais depuis très peu de temps, mais c'est un vrai plaisir que ça existe. Il faut que ça continue à exister. Je remercie aussi les gens nombreux qui sont venus de tous côtés. Ben, ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui compte, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup d'être venus. Donc, je suis là pour faire un cycle de conférences que je vais diviser en trois parties. La première portera sur l'hospitalité absolue, infinie, illimitée et inconditionnelle. La prochaine fois, c'est-à-dire le 8 janvier. Voilà. Je parlerai de la différence sexuelle. On ne peut bien sûr ne pas séparer toutes ces notions. Mais disons qu'aujourd'hui, il s'agira d'un féminin hospitalier et la prochaine fois d'un féminin au-delà de l'hospitalité qui sera aux confins de l'humain. La troisième conférence s'appelle « Animalité envisagée »,« Animalité plurielle ». Tout ça, je vais essayer de situer dans l'œuvre de Lévinas, de la manière la plus fidèle et la plus infidèle possible. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des gens qui connaissent Emmanuel Lévinas ici. Lévinas, bon, j'aimerais beaucoup lui rendre hommage. Il nous a quittés il y a 11 ans. J'ai eu le bonheur et la chance d'être reçu par lui, ce qui était déjà une scène hospitalière en tant que telle. C'est probablement la seule personne en France que j'ai connue qui m'a compris en luxembourgeois. Ce qui est très très rare, étant donné que c'est une langue très rare. Donc Lévinas est d'origine lituanienne. Il est né à Kovno en 1906. Kovno Kaunas, et il est mort en 1995 à Paris. Pendant la révolution russe, il s'est installé à Kharkov en Ukraine. Où il a passé ses études de secondaire. Alors, de secondaire, il a passé en langue russe et c'est un grand connaisseur de littérature russe. Il lui est arrivé de dire que toute la philosophie était déjà dans Shakespeare. Il parlait, du moins comprenait, une dizaine de langues. Il part à Strasbourg en 1923 où il est très influencé par Bergson, Blondel, Pradine, Guéroux et en sociologie Habfax. Puis il va à Fribourg pour suivre l'enseignement de Husserl et de Heidegger. Il est dans le séminaire de Heidegger quand celui-ci écrit L'être et le temps en 1927. Lévinas va faire sa thèse sur Husserl en 1930, donc à l'âge de 24 ans. Et ces sources. Puis dans les années 60, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Monsieur Chouchani, un talmudiste très très atypique, sans abri. Ce qui a probablement le plus marqué quand même Lévinas, mais aussi son œuvre, et peut-être surtout son œuvre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Il a la naturalisation française. Il est prisonnier de guerre en 1940 dans un camp de travail qui isole les juifs des autres confessions. Sa femme et sa fille trouvent refuge à Paris, mais toute la famille lituanienne est décimée par les nazis. Donc toute l'œuvre est marquée par cela, même si Lévinas n'en parle très très rarement, dans l'œuvre, de manière très indirecte. Il n'y a que quelques citations, parce qu'avec ça, il est déjà engagé Une pensée qui essaye de dire l'un des disciples de ce côté, Levinas est très proche d'Adorno, même si à mon savoir, il n'y a aucune référence. Donc moi, j'en ai pas trouvé, pas de référence où on pourrait constater une correspondance avec Adorno ou une citation. C'est-à-dire, la blessure de la Deuxième Guerre mondiale aurait laissé une blessure dans le langage même, dans la langue philosophique, dans le langage philosophique. Une citation d'autrement qu'être, une des rares citations qui en parle un peu plus directement, c'est la suivante. Le persécuté ne peut se défendre par le langage, car la persécution est disqualification de l'apologie. La persécution est le moment précis où le sujet est atteint ou touché sans la médiation du logos. À part cela, on a dans autrement qu'être effectivement la dédicace qui est à la mémoire des êtres les plus proches parmi les 6 millions d'assassinés par les nationaux socialistes, à côté des millions et millions d'humains de toute confession, de toute nation, victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisémitisme. Un des très rares passages aussi qui renvoie directement au rapport entre la persécution comme événement concret et le langage se trouve dans Nom propre. Il y a plus d'un quart de siècle, notre vie s'interrompit et sans doute l'histoire elle-même. Aucune mesure ne venait plus contenir les choses démesurées. Quand on a cette tumeur dans la mémoire, 20 ans ne peuvent rien y changer. Ou bien, et ça c'est maintenant ma dernière citation, parce que sinon vous allez vous dire que je ne fais que citer. Dans Difficile Liberté, il existe des événements humains qui déchirent leur propre enveloppe. Il existe des événements qui brûlent les concepts qui expriment leur substance. Tout ça pour vous dire à quel point Levinas est obligé de chercher des nouveaux concepts pour continuer à philosopher et pour sauver, d'une certaine manière, la philosophie de ce qui lui est arrivé et le langage. Donc, il s'agit pour Levinas de déranger ce qu'il appelle l'impérialisme de la logique occidentale en témoignant à travers un excès de l'expression ce qu'elle efface. Pour lui, et là-dessus il est assez radical, et ça a souvent été contesté, toute l'histoire de la philosophie occidentale est une histoire d'allergie du même à l'autre. Donc il distingue entre le dit et le dire. Le dit appartiendrait à la thématisation, au savoir, au sens établi. Le dire se déroberait au savoir, on verrait à une signification primaire, au-delà du savoir et précédant la conscience. Si dans le langage, le dire est en grande partie absorbé par le dit, il laisse pourtant des traces dans la mesure où il ne s'épuise pas en transparence. Le dire risque de se figer en dit dès que la thématisation l'attache. La philosophie serait alors l'indiscrétion à l'égard de l'indicible, exigeant le dédire du dire pour s'arracher au dit. Maintenant, on peut dire ça beaucoup plus simplement, du moins j'espère. Toute l'œuvre témoigne de la force d'honorer, outre les vaincus, les engloutis de l'histoire. Il aborde déjà dans totalité les débordements et l'interruption de l'histoire en décrivant le rapport visible-invisible. Il faut que l'invisible se manifeste pour que l'histoire perde son droit au dernier mot. Nécessairement injuste pour la subjectivité, inévitablement cruel. Ce dernier mot est donc cruel parce que l'histoire témoigne pas de tout ce qui est arrivé. Il y a des choses dont le langage ne peut pas témoigner ou doit chercher d'autres concepts. Alors on peut se demander comment il fait, parce que ce n'est pas rien. Il est marqué par deux sources. L'une, c'est la philologie allemande avec Husserl et Heidegger. Et la deuxième, c'est le Talmud. Alors, Levinas a toujours pris soin de séparer son œuvre en deux parties. Il a même eu deux éditions différentes. L'une, c'est les éditions de minuit où toutes ces leçons talmudiques ont été publiées. Et les autres éditeurs étaient, ceux pour la philosophie étaient des petits éditeurs comme Martinus Neihoff Tout ça, ça a été repris maintenant dans beaucoup de livres de poche. Et il insiste sur cette séparation parce qu'il ne veut pas faire amalgame entre les deux. Tout en préservant le lieu grec, en tant qu'exilé, Lévinas s'inspire en même temps de la sagesse talmudique. Son souci est de donner d'une part au judaïsme sa philosophie et dénoncer en grec les principes que la Grèce ignorait. Alors, il est bien sûr assis entre deux chaises. On a très très souvent insisté sur la tension entre les deux sources de l'œuvre Lévinas, la philologie et les Talmuds. C'est-à-dire, les philologues lui ont reproché de faire de la religion et les Talmudistes lui ont reproché de faire de la philosophie. Et il voulait faire les deux et il est arrivé. La tension est bien présente, mais son constat a trop souvent servi à le réduire soit la religion, soit la philologie. Mais il s'agit bien plus que d'une tension ou d'un dialogue entre Talmud et philologie. Il s'agit d'un dédire qui dérange l'ordre de tous ceux qui croient avoir trouvé leur port. La pensée de Lévinas ébranle les demeures et les lieux habituels de la philosophie pour donner son poids à une différence irrécupérable qui inquiète les concepts et interrompt tout dogme et dit institué. Ça veut dire que le sens n'est jamais fixé, n'est jamais figé, que l'interprétation n'est jamais terminée, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Donc, il est arrivé de dire à Jean-François Lyotard que la parole de Lévinas cherchait sa légitimation, attendait sa légitimation de l'autre, et moi je vais vous demander la même chose pour ma parole, même si je ne vais pas me comparer à Lévinas, mais quand même. C'est-à-dire, vous pourrez m'interrompre à tout moment, de toute façon, je ne vais pas parler une heure et demie, et j'espère beaucoup qu'on pourra s'entretenir. Pour Lévinas, alors justement, pour résumer, si on peut, ce qui signifie religion pour lui, elle signifie tout simplement la responsabilité, la vulnérabilité pour l'autre. Hein. Un respondere qui serait répondra et répondre de. Hein. Dans un livre qui s'appelle De Dieu qui vient à l'idée, Dieu ne se manifeste pas, il ne parle pas. Et il peut seulement être cherché dans le rapport à l'autre. Lévinas insiste sur le fait qu'allant à Dieu ne signifie ni le retour à Dieu, ni la réunification avec lui, mais il se limite à mon aller primordial vers l'autre personne. Si l'éthique ne présuppose pas la croyance présuppose cependant l'éthique comme ouverture à l'autre, comme loi qui ne dit rien d'autre que le fait qu'autrui me précède. Beaucoup de passages dans les écrits de Lévinas semblent indiquer que sa notion de Dieu est davantage compatible avec l'athéisme, l'idée de l'inexistence de Dieu, qu'avec l'idolâtrie comme foi aveugle. Je cite des petits exemples. Je pense que Dieu n'a pas de sens en dehors de la recherche de Dieu. Hein. Ou bien encore, l'absence de Dieu est meilleure que sa présence. Il s'agirait d'un Dieu qui est non contaminé par l'être. Tout ça pour vous dire qu'il est donc tout à fait possible d'aborder Lévinas dans une perspective athée, ce que je vais faire ici. Notre sujet, c'est bien sûr l'hospitalité. Bon, je vais d'abord essayer de donner plusieurs définitions de l'hospitalité. Déjà, l'hospitalité est un terme ambigu. Un accueil de l'autre qui est lié à des notions de pouvoir et d'égalisation. Le gros livre de l'hospitalité qui a 2000 pages et qui a été publié sous la direction d'Alain Montadon définit l'hospitalité de la manière suivante. Le geste d'hospitalité envers l'étranger de passage transforme l'hostilité latente d'un élément extérieur en un accueil bienveillant, affable, amène, courtois. C'est-à-dire, l'hospitalité est déjà définie négativement. Hein. Il faut être hospitalier parce que sinon on est menacé. On transforme l'hostilité en amitié. dans la langue française est très riche à cet égard. L'hôte signifie à la fois celui qui est reçu et celui qui accueille. Je ne connais pas d'autre langue dans laquelle le même mot pourrait signifier les deux choses, mais ça existe peut-être si quelqu'un le sait. Moi, je n'ai pas trouvé. Au niveau de l'étymologie, on peut distinguer hospes et hostis, hospes hôte et hostis ennemi. On voit donc qu'il y a une tension constante dans laquelle se joue tout l'enjeu de l'hospitalité. Il y a une crainte latente devant l'étranger et cette crainte ne va pas sans fantasme de dévoration. L'anthropophagie est aussi une question d'hospitalité. Et il y a eu plein de contributions à cet égard. On peut distinguer l'hospitalité juridique dont les droits et les devoirs sont toujours conditionnés et conditionnels. Celle-ci ne nous intéresse pas beaucoup ce soir. Je pense qu'il est plus important de parler d'une hospitalité infinie, absolue, illimitée, inconditionnelle. Infinie dans la mesure où elle est sans fin, mais aussi sans origine, sans arcée, elle est donc anarchiste. Absolue, c'est-à-dire sans restriction. Illimitée, car sans limite. Inconditionnelle, c'est-à-dire elle ne présuppose aucune condition. Et elle donne lieu à un accueil radical. Tout ça, je l'ai piqué à Lévinas. Cette hospitalité hyperbolique comporte certes le risque d'accaparation ou d'une violence destructrice, et c'est ce que je vais essayer de montrer et développer ici. Sans cette hospitalité comme modèle pour l'hospitalité juridique ou politique, il n'y a pas d'hospitalité du tout. Et ça me paraît très actuel de nos jours où on nous dit qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, qu'on peut accueillir de moins en moins. Si nous ne revendiquons pas une hospitalité excessive, il n'y en aura pas du tout. Donc ça, c'est en gros la thèse de mon exposé, et je vais essayer de suivre le développement de Lévinas, qui est un développement qui va de l'hôte d'un sujet qui est hôte et qui devient, dans un livre plus récent, otage. Alors, l'hospitalité absolue, infinie, illimitée et inconditionnelle commence chez Lévinas par un enjeu qui consiste à aborder un autre qui ne soit pas réduit au même. À accueillir l'étranger dans une hospitalité infinie qui ne serait pas de l'ordre d'un savoir ou d'un vouloir, mais de celui de l'exposition et d'un accueil précisant toute décision. Cette notion d'hospitalité infinie s'avère cruciale dans le monde actuel des réfugiés, des sans-logis, des sans-papiers, mais aussi des sans-patrie, c'est sans espoir. C'est-à-dire, c'est une hospitalité avant tout choix. Il n'y a aucune liberté dans tout ça. Ce n'est pas l'ordre de la décision. Pour Lévinas, c'est la structure d'un sujet éthique qui fait qu'il n'a même pas le choix. Il doit le faire. S'il veut survivre, et pas seulement pour lui, parce qu'il n'est pas possible d'exister sans autrui. Bon, à cet égard, Lévinas représente le précurseur de penseurs qui, malgré les différences les séparant, sont aujourd'hui préoccupés par l'exigence d'une hospitalité inconditionnelle ou absolue à distinguer de l'hospitalité juridique. Je pense notamment à des penseurs comme Jacques Derrida, René Scherrer, Jean-Luc Nancy, et puis généralement à tous ceux qui ont contribué, par exemple, au livre de l'hospitalité de Montadon. J'aimerais aussi rendre hommage ici à Jacques Derrida qui malheureusement ne peut pas continuer ce travail, mais son travail reste bien présent parmi nous. Lévinas nous présente cette hospitalité primaire ne précédant pas seulement le droit mais aussi la propriété. L'hospitalité serait tant terreur à tout choix et à toute origine, et dans ce sens précisément anarchique, faisant de chaque demeure une terre d'asile. Elle serait libre de tout calcul, de toute comptabilité, et précéderait toute décision. Tout au long de son œuvre, Lévinas est préoccupé par le souci de l'étranger. Alors, l'étranger n'est pas celui qui n'a pas la même nationalité que le moi, mais l'étranger, c'est autrui. Autrui est toujours l'étranger. C'est celui qui c'est l'étranger qui s'est mentionné un autrement qu'être, irréductible au savoir, autochtone, identitaire, le déplaçant et l'enrichissant. Alors, Lévinas mentionne une hospitalité infinie, le conduisant à concevoir un accueil radical qui précède toute identité et tout chez soi. Dans totalité infinie, l'hospitalité est d'abord ouverte par l'être féminin, l'autre dans la demeure qui accueille le sujet, c'est-à-dire le même, le maître de la maison écrit au masculin, tandis que dans autrement, la subjectivité est l'autre dans le même, la subjectivité maternelle, c'est-à-dire hospitalité inconditionnelle de l'altérité. Le mouvement de la pensée de Lévinas à suivre est un mouvement qui part du sujet hôte pour en arriver à la subjectivité en rupture d'essence, c'est-à-dire l'otage. À partir d'autrement qu'être, l'hospitalité n'est pas pensée à partir du sujet ou de son lieu, mais elle précède toute propriété, toute décision, elle est sans commencement, pré-originelle, anarchique. Donc, je vais examiner plusieurs figures de l'hospitalité. La première, c'est le visage d'autrui, qui suggère la possibilité et l'impossibilité du meurtre. La deuxième, c'est le moi accueillant plus qu'il ne peut contenir. La troisième, c'est l'accueil de l'autre dans la demeure par ce que Lévinas appelle la femme ou un être féminin. Et puis, la quatrième, c'est donc l'otage, qui est une subjectivité maternelle expulsée de chez soi et qui peut se substituer à autrui. Ceci dit, toute l'éthique de Lévinas est fondée sur un rapport asymétrique entre le moi et l'autre. Je ne peux pas demander une réciprocité, c'est-à-dire autrui ne peut pas se substituer à moi. Donc, le visage de l'autre suggère la possibilité et à la fois l'impossibilité du meurtre. Je cite Lévinas, « Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, la peau nue bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaye de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Ce visage n'est pas forcément ce que nous voyons, c'est-à-dire il est irréductible à un phénomène. Quelque chose serait plus ancien que le sujet de la possession, et autrui ne serait pas un alter ego. Rien n'est plus étrange, ni plus étranger que l'autre homme, et c'est dans la clarté de l'utopie que se montre l'homme, hors de tout enracinement et de toute domiciliation, apatridie comme authenticité. Donc, dès que je me rapproche d'autrui, je m'éloigne de moi. On est déjà hors sujet dès qu'on a accès au langage. Et on ne peut être soi à cause de l'autre. Le sujet de Lévinas est déjà décentré, il est déjà étranger à soi. Il destitue radicalement le sujet. Il ne le divise pas comme Lacan, il ne déconstruit pas comme Derrida, mais il le destitue. Lévinas est connu comme un philosophe qui est préoccupé par l'éthique. Et c'est vrai qu'il dit que l'éthique précède la philosophie et la politique. Mais que signifie éthique pour lui? Alors, ce qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est qu'il distingue explicitement entre l'éthique et la morale, en insistant sur le fait que, citation, « l'éthique comme mise à nu extrême et sensibilité d'une subjectivité pour une autre » devient moralité et durcit sa carapace aussitôt qu'on entre dans le monde politique du troisième impersonnel, le monde du gouvernement, des institutions, des tribunaux, des prisons, des écoles, les comités, etc. Si l'ordre politico-moral abandonne sa fondation éthique, il doit accepter toutes les formes de société, y compris le fascisme et le totalitarisme. Donc l'éthique ne serait surtout pas la morale. La morale est de l'ordre sociopolitique, elle consiste en des règles et normes à suivre, elle implique le devoir civique, tandis que l'éthique est, selon Lévinas, la philosophie première à distinguer de toute norme et de toute généralisation. Ainsi, elle ne produit ni loi juridique, ni règles de conduite, puisqu'elle est de l'ordre d'une asymétrie radicale, de la priorité de l'autre, d'une responsabilité sans réciprocité. Pourtant, cette hyperéthique, cette exigence excessive, sans arquet, précède la politique et la morale dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être mises en question à partir d'elles et où l'exception précède la règle. Donc cette éthique ne trouve aucune légitimation dans le savoir. Et elle diffère de l'expérience morale car elle ne se manifeste ni par la prescription de règles de conduite générale, ni par un impératif universel. On peut penser à Kant, à son impératif catégorique. Kant n'est pas Lévinas et Lévinas n'est pas Kant. Pour Lévinas, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'impératif catégorique. Alors, l'éthique signifie uniquement qu'autrui précède le moi. Il n'y a pas de communauté de genre, il n'y a pas de vision platonicienne, autrui demeure infiniment étranger. Autrui n'est ni une métaphore, ni un phénomène, mais une obligation avant la vision. Cela va se compliquer quand on est plus que deux. Dès que la troisième personne arrive, la question de la justice se pose, parce qu'on ne sait plus qui est préférable, le premier autrui ou le deuxième. Ce qui fait dire à Lévinas quand même politique après. Donc, ça commence par le deux. Alors, la deuxième notion, c'était le moi accueillant plus qu'il ne peut contenir. Qu'est-ce qui est nouveau dans la philosophie de Lévinas? Qu'est-ce qui le distingue de toute autre philosophie? C'est probablement la première fois que le moi, sujet de la conscience, est pensé à partir d'autrui. Lévinas reproche à la pensée occidentale son allergie à l'altérité, la qualifie comme étant le plus souvent une réduction de l'autre au même. Dans Totalité et Infini, il écrit, citation, « L'effort de ce livre tend à apercevoir dans le discours une relation non allergique avec l'altérité, à y apercevoir le désir où le pouvoir, par essence meurtrier de l'autre, devient en face de l'autre et contre tout bon sens, impossibilité du meurtre, considération de l'autre ou justice. » Le mouvement de la pensée qui part de l'autre à l'otage passe forcément par la différence sexuelle. Totalité infinie est, tel que Derrida l'avait déjà constaté, un immense traité de l'hospitalité. Lévinas situe autrui toujours déjà comme étranger par rapport au moi. Le moi est mis en question par l'existence d'autrui. Il s'agit d'une mise en question du même par l'autre. Citation, aborder autrui dans le discours, c'est accueillir son expression où il déborde à tout instant l'idée qu'on emporterait une pensée. C'est donc recevoir d'autrui au-delà de la capacité du moi, ce qui signifie exactement avoir l'idée de l'infini. Mais cela signifie aussi être enseigné. Le rapport avec autrui ou le discours est un rapport non allergique, un rapport éthique, mais ce discours accueilli est un enseignement. Mais l'enseignement ne revient pas à la maïeutique. Il vient de l'extérieur et m'apporte plus que je ne contiens. Pour ceux qui enseignent, ça a des conséquences assez fâcheuses. Parce qu'il n'y a plus de maïeutique, c'est-à-dire on n'est pas là, on n'est plus des accoucheurs comme Socrate, qui font donc accoucher la pensée d'autrui qui est déjà là, mais nous recevons plus que nous ne pouvons jamais donner. Donc la conséquence est peut-être pas si fâcheuse pour nous, mais ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose que ton accès et que l'enseignement se retournent toujours. On apprend plus de ceux à qui on enseigne qu'ils apprennent de nous. Lévinas constate une absence de patrie commune qui fait de l'autre l'étranger, l'étranger qui trouble le chez-soi. Mais étranger veut aussi dire libre. Sur lui, je ne peux pouvoir. Il échappe à ma prise par un côté essentiel, même si je dispose de lui. Il n'est pas tout entier dans mon lieu. On l'aura remarqué, il y a un renversement des catégories. L'hospitalité n'est pas pensée à partir du moi, mais à partir d'autrui. Comme elle n'est ni une affaire de choix, comme le voudraient certains de nos jours, ni une affaire de sélection, elle nous incombe. Autrui a le statut d'étranger au-delà de tous les passeports du monde. L'accueil de l'autre par le moi n'est pas une affaire de possession de papier que je pourrais lui demander, mais structure le moi, le rend étranger à soi, non pas parce qu'il le veut, mais sur un fond de passivité, ou plutôt, d'après Lyotard, de passibilité originaire. Lévinas écrit que l'intentionnalité de la conscience est attention à la parole ou accueil du visage, hospitalité et non pas thématisation. La vraie hospitalité n'est pas de l'ordre de la thématisation, c'est-à-dire elle ne peut devenir objet, chose ou thème. Elle a sa fin en soi, elle ne peut pas devenir utile. La thématisation présuppose déjà l'hospitalité qui précède justement l'allergie à l'autre, appelée hostilité naturelle par Kant. Pour Lévinas, il n'y a pas d'hostilité naturelle. Mon troisième point, c'était appropriation et chez soi. Il y a une tension entre deux sujets dans l'œuvre de Lévinas. Il y a d'une part le sujet de la possession, ou sujet de la jouissance, sinon il y a aussi le sujet éthique. Et il y a comme une concurrence dans toute l'œuvre entre ces deux sujets. Donc de l'existant à l'existant et donc de l'évasion, le sujet de l'être est défini à partir de la séparation de l'ilia. Il est déjà différent, sujet toujours personnalisé. Ce qui les caractérise n'est pas la raison, mais la séparation, ces besoins par lesquels ils sortent de l'ilia. L'existence séparée est en premier lieu existence corporelle et jouissance. Le sujet est figure de l'évasion par la jouissance, se caractérisant par la joie de vivre. La jouissance est également cruciale pour le sujet en essence permanente de totalité et infinie. Une essence permanente parce qu'il ne sera jamais identique à lui. Il sera en quelque sorte jamais adulte ou jamais fini, jamais complet, toujours incomplet. Alors, citation, « On devient sujet de l'être non pas en assumant l'être, mais en jouissant du bonheur. Pour le moi, être ne signifie ni s'opposer, ni se représenter quelque chose, ni se servir de quelque chose, ni aspirer à quelque chose, mais en jouir. Cette jouissance est jouissance immédiate de la vie avant toute réflexion et elle est déjà possibilité étrange d'un être incomplet. L'être est déjà amour de la vie. Le moi n'a pas un corps, il est ce corps, il est individué par ses besoins, ce qui amène Lévinas à constater que toute jouissance est alimentation de nourriture terrestre et céleste. Or, cette jouissance est en même temps solitude. Elle touche à un autre domaine, car bien qu'elle soit solitude, la jouissance n'est pas indépendante, elle est sans sécurité, étant donné que l'élément dont le moi jouit peut disparaître. Se tourner contre lui, en quoi consiste le problème de la jouissance conduisant à celui de l'appropriation? Il y a le souci du lendemain qui entraîne le travail qui est l'énergie même de l'acquisition. À cause de cette nécessité de récupération de l'altérité du monde, le moi est ici à la manière du même. Car il faut que le sujet assure sa jouissance par l'activité économique et celle-ci à comme condition qu'il rentre chez lui et qu'il se repose dans la demeure, domaine privé qui ouvre de nouvelles possibilités. Cette demeure, comme lieu de recueillement, se caractérise par l'intimité avec l'autre, qui est ici la femme. Le sujet économique est donc l'homme. C'est à ce point précis que la différence sexuelle entre en jeu. Donc, Lévinas le reconnaît tout de suite, le sujet est l'homme. On n'a qu'à chercher dans toute l'histoire de la philosophie, le sujet, c'est toujours l'homme. On a beau, parfois, on le déguise en neutre, hein, mais ce qui ressort à chaque fois, c'est l'homme. Mon quatrième point, l'hôte de l'hôte, la présence féminine comme figure hospitalière avant toute décision et propriété. Citation. Et l'autre dont la présence est discrètement une absence et à partir de laquelle s'accomplit l'accueil hospitalier par excellence, qui décrit le champ de l'intimité est la femme. La femme est la condition du recueillement, de l'intériorité de la maison et de l'habitation. Ça, c'est enfin. C'est dans la demeure que l'élan de la jouissance se convertit en calme. Le moi se recueille dans la demeure imprégnée d'intimité féminine. Le sujet entre en relation avec le toi, rencontre où l'engage se tait et reste néanmoins une possibilité. Le féminin semble donc garantir à la première vue la sécurité, la séparation entre le moi et l'anonymat de la terre, et fournir en même temps la possibilité de communication avec le monde à posséder. Le féminin comme base du sujet de la jouissance. La féminité devient figure d'hospitalité, hospitalité qui précède la propriété. Citation. La maison qui fonde la possession n'est pas possession dans le même sens que les choses meubles qu'elle peut recueillir et garder. Elle est possédée parce qu'elle est d'or et déjà hospitalière à son propriétaire. Ce qui nous renvoie à son intériorité essentielle et à l'habitant qu'il habite avant tout habitant, à l'accueillant par excellence, à l'accueillant en soi, à l'être féminin. La demeure est la possibilité de recueillement du moi, dans totalité infinie, le moi et l'autre masculin, dans une demeure où la femme est la condition du recueillement, de l'intériorité de la maison et de l'habitation. Le moi, comme propriétaire des maisons, dispose certes d'une maîtrise, mais la possession de ce sujet n'est pas entière. Son lieu est déjà occupé avant de représenter son chez lui. Pour pouvoir posséder la maison, il faut d'abord l'hospitalité primaire dont la figure est l'être féminin. Le statut du moi est déjà équivoque. Il est à la fois le propriétaire et l'hôte, comme invité, car il est d'abord accueilli dans son chez lui. La possession, l'appropriation de la demeure est déjà impossible. Le moi doit d'abord être accueilli par l'être féminin pour pouvoir demeurer, trouver asile. Tel que Derrida le constate, le prétendu propriétaire reçoit l'hospitalité dans ce qu'il tient pour sa propre maison. Lévinas souligne que le sujet doit pouvoir demeurer pour exister. Alors on a quand même envie de dire, chacun n'a pas une femme à la maison. Et on a envie de dire aussi qu'il y a des gens qui ne vivent pas forcément avec une femme, des hommes. Et puis on a envie de dire qu'il y a toute une économie qui est faite par des hommes et par des femmes. Et que tout cela est peut-être traditionnel, assez reproche. Lévinas a dit qu'il se référait pas exclusivement à des femmes biologiques, mais plutôt à des femmes métaphoriques, comme altérité par excellence, au féminin comme monde par lequel un arrière-monde prolonge le monde. Et il a souligné que le représentant de la demeure n'est pas forcément une femme. Malgré tout, j'ai envie d'objecter que cet habitant, avant tout habitant, est bien quelqu'un qui assume le rôle classique de la femme. La femme représente la condition du recueillement du sujet, une terre d'asile, la condition de la hauteur, de l'éthique. Elle est l'accueil par excellence, figure de l'hospitalité absolue, sans pour autant faire partie de cette éthique. L'être féminin dans la demeure qui calme le sujet tout en le tonifiant ne se réduit pas à ce rôle. Il est l'équivocité même. Et ça, nous allons le voir dans la deuxième conférence, dès que le féminin n'est plus pure hospitalité, il devient menaçant. Le féminin érotique est menaçant, foncièrement menaçant, et il sera comparé à l'animal à certains égards. Hein, donc l'érotique semble menacer l'éthique. Lévinas est décrit dans les très belles pages l'érotique, mais l'érotique a quand même une visée qui est de donner un fils à un père. Donc, mon cinquième point, c'est l'otage, la subjectivité maternelle, un sujet en rupture d'essence. Alors, dans totalité infinie, le moi est l'homme. Dans autrement qu'être, la subjectivité devient maternelle. La non-possession du sujet de totalité vire en dépossession radicale du sujet dans autrement. L'hospitalité n'est pas pensée à partir d'un chez-soi. Il n'est plus question de la demeure. Cette hospitalité précède toute propriété, toute décision. Elle est sans commencement, pré-originelle, anarchique. Hein. Donc, c'est pas un changement radical, mais c'est simplement une. On pourrait dire qu'il est en France le clou. Hein. Il y a encore un chez-soi, chez totalité infinie. C'est une radicalisation du non-lieu, une radicalisation de l'hospitalité aussi. Hein. La subjectivité, d'autrement, est dépouillée, dénucléée, expulsée de soi, radicalement exposée. À première vue, ceci semble entrer en contradiction avec la totalité infinie, où le sujet économique rentre chez lui, dans sa demeure, pour se recueillir. Dans autrement, le sujet est nomade, et sans demeure, sans abri, apatride et sans repos. Levinas le décrit comme un sans attribut, sans même l'unité de l'un, venant de doubler comme attribut essentiel, un absous de toute relation, de tout jeu, littéralement sans situation, sans demeure, expulsé de partout et de soi-même, disant l'un à l'autre « je ou me voici ». Maternité anarchique. Totalité infinie a mis l'accent sur la paternité pour évoquer un sujet vivant dans le temps de la fécondité, hein, dont totalité infinie de la fécondité est paternelle. Tandis qu'autrement renvoie à l'obligation issue du passé pré-originel par la maternité. La subjectivité maternelle est la figure de l'hospitalité et l'anagolan de la subjectivité éthique dans Autrement qu'être. La maternité serait le dispositif du sujet otage, parce que celui-ci est réceptivité avant tout acte conscient, c'est-à-dire dans l'impossibilité de se refermer de l'intérieur. Levinas reprend ici la figure de la femme enceinte, parce qu'elle est à la fois étrangère à elle-même et accueil de l'étranger. Si l'hospitalité est traditionnellement connotée au féminin, et plus précisément au maternel comme réceptivité et base nourricière, Levinas reprend la figure de la femme enceinte parce qu'elle est à la fois étrangère à elle-même et accueil de l'étranger, incarnation de l'autre dans le même. L'hospitalité inconditionnelle, à distinguer de l'hospitalité juridique, dans autrement, ne découle pas d'un vouloir ni d'un savoir, mais d'une sensibilité primaire. Citation. Le sensible, maternité, vulnérabilité, appréhension, noue le nœud de l'incarnation dans une intrigue plus large que la perception de soi. Intrigue où je suis noué aux autres avant d'être noué à mon corps. Nœud gordien du corps, les extrémités, où il commence ou finit, sont à jamais dissimulées. L'expérience sensible en tant qu'obsession par autrui, où maternité est déjà la corporéité que la philosophie de la conscience veut constituer à partir d'elle. Levinas distingue cette maternité de la maternité naturelle. Elle serait plutôt que la nature. Comme l'être féminin dont la demeure de totalité ne désignerait pas forcément une femme biologique, la subjectivité maternelle dans autrement ne serait pas forcément une mère biologique. C'est à travers la figure maternelle que Levinas constate la défaillance de l'ontologie et la ruine de la représentation, qu'il refuse les contradictions et les oppositions. S'il utilise des métaphores féminines, il ne s'agirait pourtant pas d'un usage métaphorique traditionnel, puisque la métaphore ne renvoie plus à l'image, ne reflète plus la division entre monde propre et figuré, mais désigne l'altérité d'un passé qui n'a jamais été présent, un passé que Levinas appelle immémorial. Alors, si nous avançons que cette subjectivité s'est créée au féminin, cela est seulement vrai dans la mesure où elle se caractérise par des propriétés que la philosophie occidentale a généralement accordées à la femme comme à son autre, au non viril, au non masculin et notamment à la mère. Appeler tout cela féminin exige donc une certaine prudence et hésitation, puisque cette notion ne renvoie effectivement pas à des propriétés qui seraient l'exclusivité des femmes anatomiques, mais à ce qui marque et affecte tout être vivant. Je vais y revenir dans la deuxième conférence. Dans autrement qu'être le sujet humain est l'être qui creuse en lui l'espace pour l'autre, fissant dans sa substantialité. La subjectivité témoigne d'une dénucléation et ne renvoie pas un moi identique à soi, mais à un soi comme fissibilité. Il n'y a pas d'identité du moi à soi, la subjectivité est le nœud et le dénouement de l'essence. Le sujet est fissiant, dénucléation, autre en lui-même. Levinas le caractérise par la passivité, blessure, fragilité, faiblesse, vulnérabilité, hémorragie pour l'autre, susceptibilité, affection par autrui. Alors, citation, l'un pour l'autre qui, dans le sujet, n'est précisément pas rassemblement, mais une incessante alignation du moi par l'hôte qui lui est confié l'hospitalité. Autrement qu'être est un livre qui revendique une hospitalité absolue, inconditionnelle et infinie jusqu'au débordement du moi par l'autre sans limite, comportant le risque de l'hostilité, de la persécution et du sacrifice. La notion sujet otage désigne un cogito hospitalier signifiant j'accueille donc je suis. Cet accueil qui était dans totalité infinie réservé à l'altérité féminine, qui accueille le sujet hôte, définit ici la subjectivité tout court. La subjectivité dans autrement se caractérise par une hétéronomie fondamentale, elle est radicalement exposée et responsable avant tout choix. Levinas a renouvelé la notion de responsabilité, car celle-ci n'est pas plus de l'ordre de la conscience que de la réciprocité, mais désigne un respondéré paradoxal et aporétique qui fait découvrir l'autre au lieu du moi. L'aporie du sujet éthique est la suivante. Il n'est unique que par son statut d'otage, il est responsable de tout, sauf de sa propre responsabilité. La subjectivité témoigne d'une dénucléation du moi et ne renvoie pas à un moi identique à soi, mais à un soi comme fissibilité. Alors l'hospitalité peut se retourner en substitution et persécution. Mourir pour l'autre, expier sa faute par moi. Il s'agit donc, ce risque est toujours là. Il va jusqu'à la responsabilité de la mort d'autrui, pour la mort d'autrui. Mais il faudrait quand même faire attention et essayer de libérer la responsabilité lévinassienne de toute banalisation moralisante. Le moi lévinassien est un moi sans moi, qui conduit à un paradoxe et à une contradiction à laquelle Blanchot, dans l'écriture du désastre, a attribué un haut sens, ne laissant rien intact. Une responsabilité qui me désœuvre, détruit le moi en tant que maître et l'excède. Cette responsabilité renvoie à la faiblesse humaine, la vulnérabilité d'un premier respondéré dès la naissance. Si la responsabilité est contrainte, elle se distingue radicalement d'une morale volontariste basée sur un consensus programmatique. Elle est sans réciprocité et se manifeste dans un bouleversement du sujet philosophique qui est, tel que nous allons l'approfondir dans la prochaine conférence, toujours l'homme. Citation, le moi obsédé par tous les autres, supportant tous les autres, est l'inversion de l'extase intentionnelle. Passivité où le moi est soi sous l'accusation persécutrice du prochain. Mais quelle est cette passivité? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus bouger? Dans totalité, l'accueil d'autrui, dont la condition est la femme comme hôte de la demeure, qui rend possible le recueillement, exprime déjà une simultanéité d'activité et de passivité. Dans autrement, la passivité plus grande que toute passivité est une des notions centrales qui caractérise la subjectivité éthique. C'est cette passivité plus grande que toute passivité qui semble, fait paradoxal, ouvrir la responsabilité. Citation, en subissant passivement le poids de l'autre, appelé par la même à l'unicité, la subjectivité n'appartient plus à l'ordre où l'alternative de l'activité et de la passivité conserve son sens. Levinas utilise cette hyperbole pour défaire l'opposition entre l'activité et la passivité. Plutôt que de désigner le contraire de l'activité ou de signifier que le sujet est incapable de passer à l'action, la passivité définit le sujet comme celui qui n'est pas à sa propre origine, qui n'est pas non plus éternel, mais à tout instant exposé. Passivité, car le moi ne peut être affecté par autrui que parce que le soi est arraché à soi-même. Autrement dit, le sujet n'est pas seulement en retard sur autrui, mais également en retard sur soi. Il est dessaisi dans un double sens. Il ne peut pas saisir autrui, tout comme il ne peut pas se saisir soi-même. Dans autrement, le sujet est en tant que tel dans à autrui. La continuité